Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Rois 14:21. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Mahama, l'Ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait fait jamais fait leur père. Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La 5e année du règne de Roboam, Shishrak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain, et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la maison, dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite et Abijan, son fils, régna à sa place. Nous allons dresser un peu le tableau de ce roi de, comment doit-on dire, Israël ou Juda. Il était d'abord roi d'Israël et ensuite il est devenu roi de Juda. Mais justement, c'est toute l'histoire qui nous est rapportée. Donnez un peu le profil de ce personnage. En tous les cas, vous le savez, il est successeur d'un grand roi. Son père n'était autre que Salomon. Et nous voyons qu'il était héritier non seulement d'un royaume, mais nous pouvons parler d'un empire, hélas, divisé, en raison des décisions qu'il a dû prendre, probablement au début de son règne, et qui a fait que, finalement, eh bien, les choses n'ont pas été très loin. Imaginez-vous cet effondrement de cet empire, qui réalisait en quelque sorte, quelque peu en deçà ce que Dieu avait prévu pour Israël, mais néanmoins, cet empire qui allait, comme Dieu l'avait dit, eh bien, de la Grande Mer, c'est-à-dire Méditerranée, jusqu'à l'Euphrate. Et puis, très loin, par le Liban, en descendant vers le désert, dans le sud. Et Salomon l'a réalisé en quelque sorte, mais il va laisser à sa mort, eh bien, tout simplement cet empire, mais dans un tel état, que finalement, eh bien, son fils va finir de tout casser, et va laisser, il va rester avec simplement deux tribus, la tribu de Juda, et puis je crois la tribu d'Éphraïm. La première erreur, qui était fatale pour son royaume, ça a été de suivre les mauvais conseils. Vous connaissez l'histoire? Quand il a demandé ce qu'il fallait faire au moment où il accédait à au trône. Et là, à ce moment-là, il a questionné un petit peu tout le monde autour de lui, et puis il est allé voir les anciens, et puis il leur a demandé « qu'est-ce que je dois faire ?» Les anciens lui ont dit « voilà, tu fais ceci ». Puis après, il est allé voir les jeunes gens, et puis les jeunes gens lui ont dit « tu fais ceci ». Et puis, comme il n'était pas le roi de tous, enfin, il aurait dû l'être, alors il a pris le parti de ceux qui avaient grandi avec lui. Et puis, c'était très vite. C'est que à partir du moment où il a voulu finalement durcir le régime politique pour asseoir son règne, parce que déjà les gens et le peuple d'Israël avaient énormément souffert à la fin du règne de Salomon, lui il a dit, bien voilà, si mon père vous a traité comme ça, moi je vous traiterai encore deux fois plus difficilement. Alors ils ont dit, bien maintenant, ça y est, Israël a tes tentes. Et puis c'est comme ça que la scission s'est faite, le schisme. Et les conséquences, c'est une nation partagée, royaume de Juda, que l'on appelle aussi royaume du Midi, et puis royaume du Nord, finalement Israël. Et c'était une véritable catastrophe. On l'a lu ensemble. Roboam avait 41 ans quand il est devenu roi. Donc on pourrait dire que c'était un homme qui était fait, un homme qui était en pleine possession de ses moyens, puis il ne pouvait pas finalement invoquer qu'il n'a jamais vu ce que c'était qu'une royauté, parce qu'il avait quand même son prédécesseur, son propre père, qui a eu quand même un certain prestige. Donc on peut dire qu'il a connu, à 41 ans, il a connu entièrement le règne prestigieux de Salomon son père, et il a connu à la fois l'apogée. Parce que le règne de Salomon a duré combien de temps ? 40 ans. Hein ? Donc il était tout petit quand Salomon est devenu roi, après David. Mais il a connu certainement l'ascension, le prestige, le faste. Et puis, finalement, l'émergence de cet empire, extraordinaire pour un si petit pays. Et il a connu l'apogée, mais il a connu aussi la faillite. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, il n'a pas tenu compte de toute cette situation politique de ce régime qui a été venu pendant des années, parce que bon, l'histoire de Salomon, c'est pas venu du jour au lendemain, on le sait, de toute manière. Mais on pourrait se poser la question, devant cet échec de Roboam, son entêtement, de s'interroger pour savoir si ce n'était pas celui-ci, si ce n'était pas Roboam qui a été écrit le livre des Proverbes. Et je vais vous dire pourquoi, parce que le livre des Proverbes a été écrit par Salomon. Et quand Salomon commence les premiers chapitres du livre des Proverbes, c'est ainsi, mon fils, écoute ma voix. Mon fils, écoute ma voix. Et ça revient très très souvent, vous pourrez le constater. Et on peut décemment penser que quand Salomon, dans le meilleur de sa forme et de sa spiritualité, quand il a écrit le livre des Proverbes, recommandait les meilleurs conseils, certainement à tous ses fils, parce qu'il en avait quelques-uns, vous savez qu'il était marié plusieurs fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait certainement une multitude de fils, mais en tous les cas, il y en avait un, qui était l'héritier, qui était Roboam. Et on peut comprendre, peut-être que quand il écrit ces paroles, « Mon fils, écoute ma voix », c'était pour lui donner de bons conseils, et on peut s'imaginer ce qu'il en est resté, ce qu'il en est advenu de ces conseils. Une chose aussi que je voudrais dire dans la présentation du personnage, c'est le nom de sa mère. C'est important, hein ? Le nom de sa mère qui est mentionné deux fois dans le texte. Une fois au début, une fois à la fin. Pourquoi ? On aurait pu peut-être se contenter uniquement de savoir que Salomon était son père prestigieux, mais sa mère, parce qu'il y a une raison. Elle s'appelle Naama, et il nous est dit qu'elle était ammonite, donc elle était étrangère. Certainement pour exprimer l'autorité qu'exerçait une reine-mère sur l'enfance, puis sur le règne de son fils. Elle n'était pas israélite, elle était cananéenne. Et on devine qu'il y a là, quelque part, un problème. Parce que on sait que de par la loi, les Israélites, et surtout les rois, d'autant plus, parce qu'ils avaient valeur d'exemple, ils menaient le peuple, ils étaient représentants de Dieu, en quelque sorte, même s'ils n'avaient pas le sacerdoce. Mais néanmoins, ils étaient en vue. Ils avaient le devoir de se marier avec des filles d'Israël ou des Israélites, tout simplement. Et on peut comprendre qu'à partir du moment où, il y a cette infraction, il va y avoir nécessairement quelque chose qui va faire dévier le plan de Dieu. Alors là encore, Salomon, qu'est-ce qu'on doit dire ? Parce que j'ai l'impression qu'il avait des princesses dans tous les pays. Mais c'était politique aussi. Quand il s'est marié avec la fille du roi de Pharaon d'Égypte, elle était devenue reine, mais vraiment la première. Et ensuite, il a eu des concubines, je crois, combien il nous a dit, 800 et quelque chose. Imaginez-vous ce que ça peut être, l'entente. Mais toujours est-il que, quoi qu'il en soit, ça a certainement posé de véritables problèmes. Et les problèmes sont venus non pas sur le plan conjugal, parce que si on peut parler de vie conjugale, mais sur le plan spirituel à ce moment-là. Alors, elle était cananéenne, et c'est certainement l'explication possible de l'idolâtrie qui suit. Lorsque nous lisons le verset 22 à 24, et j'aimerais peut-être le relire, il nous est dit que « Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par ses péchés qu'ils commirent, ou les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent la jalousie de l'Éternel, plus que n'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent, eux aussi, des lieux, avec des statues, des hauts lieux, des idoles sur toute colline élevée, sur tout arbre vert, Il y avait même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Alors on sait que Salomon n'allait pas très bien, hein, sur le plan spirituel à la fin de sa vie. Mais imaginez-vous un petit peu la fourmilière de religion, de conception, de spiritualité qu'il pouvait y avoir à Jérusalem, qui était la ville sainte, la ville du grand roi. Oui, du grand roi. Et l'idolâtrie qui en a suivi, naturellement. Vous avez remarqué avec moi, c'est le peuple qui pêche en premier. Hein, c'est ce que nous est dit au verset 22, si vous suivez dans l'étude. C'est le peuple qui pêche en premier, et je crois que c'est une réponse à la désobéissance de Roboam qui nous est expliquée au chapitre 12. Parce que c'est lui qui, quelque part, n'avait pas tenu compte du peuple. Le peuple avait dit maintenant, eh bien, nous voulons que tu allèges le régime politique qui nous régit, tout simplement, parce que c'était trop avec ton père Salomon. Mais comme il n'a pas voulu écouter le peuple, eh bien, c'est le peuple qui, à ce moment-là, eh bien, va quelque part se mettre contre le roi et se mettre contre Dieu. Et il va pécher en premier. Il nous est dit qu'ils excitèrent, les Israélites excitèrent la jalousie de Dieu, envisagé comme un adultère pour Israël. Parce que nous savons que dans l'histoire biblique, eh bien, la relation entre son peuple et Dieu est toujours comparée, finalement, à une union conjugale. Sur le plan spirituel, c'était quelque chose d'extrêmement sensible. Et à partir du moment où Israël, ou les rois d'Israël, eh bien, commençaient à batifoler un peu de tous les côtés, et particulièrement dans l'idolâtrie, se faisant des hauts lieux, des idoles, toutes sortes de choses, eh bien, c'était véritablement une trahison conjugale. C'est comme ça que, eh bien, les choses nous sont présentées. Si vous lisez le livre du prophète Osée, vous verrez que tout est bâti, il y a tout un message pour Israël, mais tout est bâti sur, en quelque sorte, la conception de l'union conjugale entre son peuple, entre Dieu et son peuple. Alors les résultats, c'est que l'idolâtrie va s'installer, elle va se répandre partout dans le pays, en Juda particulièrement, jusqu'à la présence de prostituées en grand nombre, qui n'étaient pas forcément des Israélites, des filles d'Israël, mais qui venaient de tous les pays aux alentours, et qui venaient se prostituer en Juda. C'était des étrangères, particulièrement. Chose qui, eh bien, avait été formellement recommandée par Dieu, de s'abstenir. Ces faits décrits brièvement constituent le terreau, peut-être on peut parler de cette manière, dans lequel va se développer la dégradation morale et spirituelle de Juda, dont le signe de déclin, et c'est important de le signaler, est représenté par l'histoire suivante, des boucliers d'or changés en boucliers d'airain. Vous connaissez l'histoire, vous l'avez certainement déjà entendu en prédication, je suppose. Où il y a eu un transfert, en quelque sorte. Et nous allons en parler un petit peu, parce que il est intéressant de voir que, quelquefois, eh bien, même le peuple de Dieu peut faire ce genre de transfert. Parce que, il faut bien en convenir, un bouclier, c'est un bouclier, quelle que soit sa forme, mais de l'or, c'est une chose, de l'airain, c'en est une autre. Et c'est sur cette question que nous allons pouvoir peut-être avancer. Nous avons peut-être d'abord nous souvenir que toute détérioration, voire effondrement, n'est jamais le produit du hasard. Il y a toujours quelque chose, on le voit dans le règne de Salomon, qui va, eh bien, dégénérer, et nous pouvons dire tourner court avec Roboam, mais dans d'autres histoires de la Bible, eh bien, ce n'est jamais le fait du hasard. Vous savez qu'une montagne peut s'effondrer, c'est arrivé, hein, quelquefois, et ça peut arriver aussi, on en a entendu parler, hein. Quand des sources ou des eaux souterraines viennent à ruiner ou à miner les sols, ça ne se voit pas à l'extérieur. Mais il y a parfois des rivières ou il y a parfois des torrents ou des courants souterrains qui font qu'à un moment donné, eh bien, ça s'effondre. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des grottes, mais quand on voit un peu le gruyère, excusez-moi l'expression, hein, et quelquefois on nous dit bien il y a des centaines de mètres au-dessus de notre tête et que l'on rentre dans ces galeries et que on voit des torrents parce que quelquefois c'est assez impétueux. Hein. Alors c'est pareil, hein, pour une vie. Il peut y avoir la représentation d'une montagne ou d'une nation ou d'une église, mais quand il y a des courants souterrains qui passent, eh bien cela peut véritablement miner le sol et à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, eh bien il y a effondrement. que l'on peut appeler des désobéissances, des provocations, de l'idolâtrie, de l'infidélité, du flirt avec le mal, enfin toutes sortes de choses. L'imitation des nations, par exemple, ça c'était le problème, c'était quelque chose d'assez viscéral chez Israël, de vouloir toujours, alors qu'ils avaient quelque chose d'unique, quelque chose qui leur était propre, de vouloir toujours regarder du côté des Cananéens pour dire, eh bien, ils font mieux que nous. Et particulièrement dans le domaine de la moralité, dans le domaine, eh bien, de la spiritualité. Et c'est un petit peu ce que nous avons lu tout à l'heure quand j'ai relu les versets 22 à 24. Ce qui donne ceci, la cinquième année du règne de Roboam, je reprends le texte, le roi d'Égypte monta contre Jérusalem. Et là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de tout à fait particulier. Vous voyez, on y peut imaginer cette montagne minée. Mais Dieu permet. Et nous allons le revoir tout à l'heure, qu'il y ait quelquefois eh bien, des choses qui viennent secouer un peu la situation pour, dans le meilleur des cas, se ressaisir. D'abord, des circonstances brutales et inattendues qui sont venues d'ailleurs. Et naturellement, il y a des causes à effet. Invasion des armées d'Égypte. Le roi est, à l'époque, le roi, c'est un nom difficile, hein, Shrishrak, c'est comme ça que l'on dit, hein, on peut toujours le dire comme on veut. Et en guise d'explication, eh bien, nous avons ce qui s'est passé, nous savons ce qui s'est passé dans Chronique. On peut le regarder, chapitre 2, verset 12, où il nous est dit ceci, « Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume, écoutez bien, et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec lui. » Ça commence comme ça, l'histoire de l'invasion du roi d'Égypte. La cinquième année du règne de Roboam, Shishrak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'il avait péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukiens, des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors la suite, elle nous est démontrée de cette manière suivante. Alors, Shaméaja le prophète se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishrak, et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, je vous livre entre les mains de Shishrak. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et ils dirent, ça c'est une bonne attitude, l'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut aussi ainsi adressée à Shaméaja. Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishrak. Mais ils lui seront assujettis et ils sauront ce que c'est que de me servir ou servir les royaumes des autres pays. Dans nos égarements, il y a toujours des leçons. Je me plais à penser que Dieu ne condamne pas aisément et facilement ses enfants. Parce qu'il y a une chose qui prédomine, c'est la grâce. Et même dans l'Ancien Testament. Et nous voyons qu'à partir du moment où il y a eu repentance, qu'à ce moment-là, les anciens d'Israël, que les chefs d'Israël, que le roi Roboam s'est dit non, nous avons fait une erreur, devant la puissante armée, parce que quand il nous a donné les chiffres militaires, c'est quand même assez impressionnant. Je crois qu'il ne faisait pas le poids, hein, Roboam. Alors à ce moment-là, ils sont rentrés en eux-mêmes, ils ont dit, bien Seigneur, oui, effectivement, nous nous sommes égarés et nous avons besoin de nous tenir devant toi. Et Dieu a dit, mais très bien, j'ai vu. Ils ont eu un cœur contrit. Alors, je vais les délivrer. Je ne vais pas tarder à les secourir. Et c'est ce qui va se passer dans la suite du récit, on ne va pas le lire. Mais Dieu voulait donner une réponse, une leçon quand même. Il leur a dit, voilà, maintenant, eh bien, c'est vrai que vous allez être libérés, mais néanmoins, vous allez être assujettis à un tribut, c'est-à-dire à un impôt. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre me servir avec la liberté que je donne lorsque vous me servez, le bonheur qu'il y a finalement à vivre dans ma présence, à me consacrer votre vie, ou alors vous allez voir ce qu'il y a de ce qu'il y a d'amertume à servir les autres nations, parce que néanmoins il y avait quand même une main mise sur Israël, sur Juda, dans cette affaire, par le roi d'Égypte. Ils étaient libres, certes, mais ils étaient quand même assujettis, quoi qu'il en soit. Mais vous avez remarqué avec moi dans ce chapitre de Chronique, il nous est dit que une fois que Roboam a été affermi, et qu'il a été d'abord établi et puis affermi, il abandonne Dieu. Ça, c'est assez curieux. Vous savez, c'est pas dans les temps d'épreuve, hein, que nous sommes les plus déficients. Et là, nous le voyons, à partir du moment où il commence à relever la tête et sentir que son pays prend un petit peu d'importance, eh bien, il se sent fort. Et parce qu'il se sent fort, il se dit « Moi, j'ai plus besoin de Dieu, ou j'en ai plus besoin comme peut-être un autre temps. » Et il nous est bien dit « Parce qu'il avait péché contre l'Éternel. » Alors, à ce moment-là, un prophète vient, le prévient, et va lui dire « Eh bien, voilà, maintenant, tu vas vivre ceci avec ton peuple. » Et il va connaître une humiliation terrible, le roi Roboam. Mais il y a des promesses de secours, nous les avons lues. Mais ils vont apprendre la leçon suivante, comme il nous est simplement résumé et que je répète, ils sauront ce que c'est de ne servir ou de servir les royaumes des autres pays. Et vous savez, parfois le peuple de Dieu vit cela. Ce n'est pas que Dieu veut détruire ses enfants, pas du tout, au contraire. Mais il veut nous éduquer. Il veut nous apprendre à faire la différence. Et ce n'est pas Dieu qui a provoqué les circonstances ici, comme dans toutes les circonstances, c'est nous qui les provoquons, nous tombons dans des circonstances particulières ou des situations, et là nous devons apprendre des leçons. Et c'est pas pour ça que Dieu lâche notre main. Alors il va y avoir un pillage en règle, si on peut dire la chose, dont certains objets enlevés donnent tout le sens à notre méditation ce matin, c'est cette fameuse histoire des boucliers. Parce que ça représentait quelque chose, et je voudrais en dire quelques mots. Les boucliers de Salomon, parce que c'était Salomon qui les avait fait confectionner, ils étaient d'or pur, l'or le plus précieux. Et ils représentaient, nous pouvons dire, un trésor national. C'est ce qu'il y avait certainement là, le prestige et la gloire en Israël et à Jérusalem. Ils symbolisaient les victoires glorieuses d'Israël sur ses ennemis. Le bouclier, c'est tout à fait ça ce que ça peut représenter. D'une arme de guerre. Alors, on les mettait en évidence. Bon, c'est un petit peu l'image, mais différemment, de notre arc de triomphe. Hein. Je ne sais pas si vous avez été sous l'arc de triomphe, mais alors vous avez toutes les batailles de Napoléon, enfin, celles qu'on a gagnées. Hein. Il est pas, je ne crois pas qu'il ait marqué Waterloo ou Trafalgar, hein, il ne me semble pas. Hein. Mais ça, c'est marqué, c'est à Londres, cela, par contre. Mais toujours est-il que vous avez toutes les victoires, et on est impressionné de savoir toutes les victoires qui ont été... Et ce sont des listes immenses. Iéna, Austerlitz, et puis il y en a d'autres. Hein. Chaque pays a sa petite histoire, enfin sa grande histoire, enfin se donnant une histoire en tous les cas, pour dire, eh bien voilà, nous sommes des triomphateurs, nous avons des victoires, enfin, toutes sortes de choses. Et c'est ce que représentaient les boucliers dans cette situation. C'était le prestige, nous pouvons dire, du règne de Salomon, à son apogée. Et dans un roi, pour nous dire que son apogée à Salomon, c'était quelque chose, parce que quand on lit par exemple dans un roi chapitre 10 verset 14, on lit ceci, écoutez bien, le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants ou du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or et 300 autres boucliers d'or battus pour chacun desquels il employa 3 mines d'or et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Imaginez-vous, c'était colossal. Avoir un trésor semblable, quelle richesse. Et il nous est même dit que l'or était aussi fréquent que les pierres à Jérusalem. Alors, si vous avez été à Jérusalem, il y a quelques pierres. Et encore, aujourd'hui. Mais l'or était aussi fréquent. Alors, ça, c'était vraiment une grandeur, parce que c'est vrai que cet or était venu par les conquêtes, mais il était venu par le négoce, par le commerce. C'était un roi avec une prospérité extraordinaire, Salomon. Donc, nous voyons que son fils va hériter de tout ça, mais ça ne durera pas. Mais voilà, justement, l'histoire, c'est que quand on a, eh bien, il faut tout faire pour le garder. Et ça, je pense que c'est une bonne leçon, parce que Dieu nous a donné beaucoup de choses. Je dirais que Dieu nous a donné des boucliers d'or à chacun d'entre nous, nos victoires. Mais ce ne sont pas des victoires sur les autres, c'est des victoires sur nous-mêmes. Des victoires sur les puissances mauvaises. Des victoires sur le péché. Des victoires sur tant et tant de situations, sur nos craintes, nos peurs. Ce sont des boucliers d'or. Ce sont des trophées de victoire. Et je crois que quand on a une chose, quand Dieu nous les donne, eh bien, la moindre des choses, c'est de garder ce que Dieu nous a donné. Et je me demande quelquefois si parfois, eh bien, le peuple de Dieu ne brade pas facilement. ses victoires. On dira toujours, oui, mais c'était le passé. Oui, mais le passé, il est là pour nous apprendre à vivre dans le présent et préparer l'avenir aussi. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut passer, ce qui peut arriver. Parce que des rois d'Égypte qui arrivent, et vous savez, la connotation Égypte, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, ils peuvent toujours survenir à un moment ou à un autre. Alors nous voyons que, en ce qui concerne le peuple de Juda, il ne va pas savoir garder et il va perdre sa gloire. Et tout le problème qui se pose ensuite, c'est comment faire revenir la gloire de Dieu. On chante ce cantique, vous savez, hein, Seigneur, fais revenir ta gloire. On le chante, hein, c'est un cantique récent. Mais comment la faire revenir à ce moment-là? Et je crois que nous pouvons, en disant cela, penser à toute l'histoire de notre passé évangélique personnel et collectif. Quand on pense et on tourne les pages de notre Bible, quand on pense au temps évangélique, aux périodes des apôtres, au temps de réveil et le souffle du Saint-Esprit d'hier, alors à ce moment-là, quelquefois, nous entendons le peuple de Dieu soupirer, avec une certaine nostalgie du genre, comme cela est écrit dans le livre des psaumes, et que nous retrouvons, et que je voudrais simplement traduire, quand les Israélites, dans les périodes de baisse spirituelle, pouvaient écrire, enfin, le psalmiste écrivant, mais c'était le reflet du soupir du peuple, quand il est dit ceci, « Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer, ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. » Ou peut-être plus récemment, lorsque nous tournons les pages de l'Évangile, nous entendons ces paroles de la bouche même des disciples. « Des jours viendront, » c'est-à-dire que c'est Jésus qui dit ça à ses disciples plutôt, « des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. » Et là, il y a toute une leçon. Parce que on est très fort, certainement, pour écrire beaucoup de livres de biographie et de beaucoup de livres d'histoire, de belles histoires qui se sont passées avant nous, du temps de nos pères ou de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Lorsque nous lisons cette nuée immense de témoins et que nous nous délectons de tout ce qui s'est passé, de la puissance de Dieu, nous pouvons dire, mais Seigneur, où est ta gloire aujourd'hui, en 2005? Où les églises se vident, hein, je ne veux pas parler un langage, un double langage, hein, c'est la réalité. Où nous voyons qu'il y a de moins en moins, finalement, eh bien là, d'enthousiasme, on peut parler même d'une désaffection de la foi. Alors on peut parler des temps évangéliques, on peut parler des temps apostoliques, on peut parler du réveil peut-être du pays de Galles dans les années au début du 20e siècle. On peut voir un petit peu ce qui se passe de tous les côtés, mais ça se passe ailleurs, mais ça se passe pas chez nous. Pourquoi, Seigneur ? Seigneur, que ta gloire revienne. Alors on pleure. On pleure. Ben, c'était un petit peu ce qui se passait avec Roboam, c'était les temps. Alors il y a deux solutions. Dans une situation semblable, il y en a deux. Il y a la bonne et la mauvaise. Vous y attendez peut-être. Et ce qui est curieux, c'est que nous allons prendre en considération que devant tout ce que Roboam pouvait faire et savait faire, il ne l'a pas fait. Celle de Roboam est assurément la plus mauvaise qui soit. Si l'on en juge par ces lignes, le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. Et vous allez me dire, c'est une petite phrase sibylline qui ne paraît pas beaucoup dans notre texte, mais, écoutez bien, le roi Roboam fit à leur place, parce que les autres étaient partis en Égypte, hein, les autres boucliers, il a fait à leur place des boucliers d'airain. Remplacer l'or par de l'airain, avec l'illusion que c'est la même chose. Mesdames, vous êtes venus avec vos bijoux ce matin. Si vous avez une bague en or et que vous la présentiez comme ça, vous savez que c'est de l'or. Et je ne pense que si on vous la prend et qu'on vous donne une bague en airain ou d'un vulgaire métal, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez réagir. Je garde ma bague en or. Parce que vous savez que l'or a de la valeur, naturellement. La question est posée, ce que nous pourrions peut-être appeler et définir par un produit de substitution à ce qui a de la valeur pour quelque chose de moindre, ou quelque chose qui n'a pas de valeur, tel que l'airain, ou c'est très relatif. L'airain, c'est du bronze. Il est jaune, lui aussi. Mais même bien astiqué, même s'il est remis aux soins des chefs des coureurs, comparativement à de l'or, ce n'est plus qu'une pseudo-richesse. Vous savez ce que ça veut dire, le mot pseudo? C'est un mot grec, hein. Ça veut dire faux. Ça paraît. C'est un petit peu comme Canada Dry. Ouais. Ça paraît de l'or, mais ce n'est plus de l'or. Pseudo-richesse, reflet d'un triste abaissement de la qualité, et je dirais que c'est la consolation d'un vaincu. Et il y a parfois trop de vaincus dans nos églises qui se consolent avec des choses moindres. Je suis forcé de le dire, parce que c'est la vérité. Le niveau baisse de plus en plus. Je suis pas là pour culpabiliser, hein, vous me connaissez maintenant. Je suis là pour apporter la parole de Dieu. Et chacun doit pouvoir apprécier avec le Saint-Esprit qui est en lui. C'est tout. Et je crois que dans cette situation, eh bien, notre brave Roboam, quand il a vu les camions de déménagement qui partaient avec ses boucliers sur l'Égypte, hein, il s'est dit, ben ça y est, je les reverrai jamais. C'est terminé. Toute notre gloire, la gloire de mon pays, la gloire de mon père, la gloire, hein, de notre histoire d'Israël, eh bien, tout ça, ça a déménagé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit, on va s'en fabriquer d'autres. Mais comme les finances n'étaient pas à la hauteur pour faire face, il a donné à ses forgerons et à ses artisans et à ses artistes, il a dit, ben, vous mettez de l'airain et vous le teintez bien jaune, hein, pour que ça fasse pareil. Eh oui. Pseudo-richesse. Alors, on a toujours les boucliers. On les regarde, on se dit, ben, ils sont là, les boucliers. Mais intrinsèquement, c'est plus la même chose. Et je crois que c'est une grande leçon que nous avons à apprendre. Quelquefois, nous n'avons pas à critiquer les autres, il faudrait d'abord se regarder soi-même. Mais parce que on s'aperçoit que on a laissé les choses comme ça, mais ce n'est plus pareil. En tous les cas, aux yeux de Dieu, c'est plus pareil. Consolation d'un vaincu. Il avait toujours ses 500 boucliers, mais c'était plus la même chose, quand même. Alors, il les sortait au moment des cérémonies, parce qu'il y en avait des fêtes, hein, en Israël. Son royaume avait toujours ses 500 boucliers, et puis, lorsqu'il y avait des cérémonies nationales et des parades royales, alors il les mettait devant, mais l'éclat était seulement un petit peu plus terne. Comme quelquefois, vous savez, quand l'onction du Saint-Esprit s'en va, quand la paix s'en va des cœurs, quand la joie s'en va, quand l'allégresse s'en va, quand on chante les cantiques parce qu'il faut chanter, parce que c'est la tradition, parce que c'est la liturgie. Allez, on met ça dehors, hein. Je crois que si on vient ici, c'est pour chanter de tout notre cœur. Et on le fait pour la gloire du Seigneur. Parce que quand on arrive dans les églises à une liturgie, c'est qu'il y a quelque chose qui a disparu, hein. Si tout est codifié, si tout est bien mis en ordre, c'est que on étouffe à un moment donné. Alors, à ce titre, Jacques nous enseigne cette parole dans son épître quand nous lisons ceci. Je vous le rappelle parce que vous la connaissez, cette parole toute simple. Et je la cite tout à nouveau quand il est dit ceci. Écoutez bien, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ça veut dire ce que ça veut dire. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Eh oui. Et l'idée à retenir, c'est justement en se trompant par de faux raisonnements. Et c'était précisément ce que t'es en train de faire, Roboam. Il se trompait par un faux raisonnement. Soit on opte pour la réalité des choses, ou on vit dans l'illusion. On peut toujours vivre dans l'illusion. On a peut-être un sentiment d'être encore confortable. Mais on n'est plus dans la réalité, forcément. Et je crois que la leçon qui peut ressortir de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est aussi celle-ci, c'est qu'il est tentant face aux difficultés, face au péché et à la désobéissance du peuple de Dieu, en raison de ses impatiences, de céder à l'appel de la facilité, parce que nous sommes dans une société de facilité, il faut bien le reconnaître, supramatérialiste, et en abaissant le niveau normal, parfois nous en arrivons à changer le fond ou la nature des choses, ou même en reniant sur la qualité. Et de dire, eh bien c'est pareil. Et c'est pour ça qu'il y a quelquefois pas mal de communautés qui sont en train de virer au je ne sais quoi, où ce n'est plus de la spiritualité, mais c'est du psychisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens n'y voient rien. Et quand il nous est demandé d'éprouver les esprits, c'est précisément pour que nous tenions à niveau une vraie spiritualité. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, on peut toujours faire, et on peut toujours dire, on peut toujours bouger, on peut toujours faire énormément de choses. Mais je vous rappellerai que la spiritualité est du domaine de l'esprit, que le psychisme, c'est du domaine de l'âme, et que d'émanation de l'âme, même dans nos églises. Il est à dire que cette opération est, et elle sera toujours, une sorte de mensonge qu'on se fait à soi-même et aux autres. Ça, ce sont les apparences. C'est le monde de l'apparence. Quantité équivalente pour qualité inférieure. C'est tout ce que nous proposent les discounts et les supermarchés. Je cherche actuellement un costume. Soyez rassurés. Mais je suis obligé d'en acheter deux. Mais que je peux, comme je peux en porter qu'un à la fois. Vous avez remarqué? C'est ça le problème. Et dans bien des choses de notre monde, c'est comme ça. Et l'Église est en train de se calquer un petit peu sur l'emballage. C'est ça le problème. Je regardais dans les magasins, bon, on me fait un prix pour deux costumes, et moi je préfère avoir un bon bien que deux en airain. Je préfère un en or. Et la société est calquée sur cela. Et nous en arrivons spirituellement à vivre un petit peu la même chose. On fait des lots. Alors, de l'airain à la place de l'or, c'est un faux calcul. C'est un faux raisonnement, nous dit l'apôtre Jacques. C'est une solution en trompe-l'œil. Certainement qu'il eût mieux valu que Roboam admette, puis se remettre en cause sérieusement. Mais en raison des apparences, et pour garder les apparences, il a choisi de faire comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Alors il a dit, voilà, bien, on a fait nos boucliers, ils sont peut-être pas comme avant, mais néanmoins on les a quand même. Je crois que c'est un pitoyable palliatif quand on veut modifier les valeurs spirituelles en les diminuant ou en les minorant, pour nous donner l'illusion qu'elles sont alors qu'elles ne sont plus. C'est une réalité, frères et sœurs. Et aujourd'hui, il y a une prolifération de choses dans nos milieux évangéliques, dans le monde protestant en général, et puis même dans le monde religieux en général, dans son ensemble, qui fait que, bien, je crois qu'on n'est pas loin de passer à travers le plancher. Alors, pourvu que ça soit la forme. Mais il y a la forme et il y a le fond. Et nous devons garder le fond en n'étant pas trop exigeant sur les formes non plus, parce qu'à ce moment-là, on tombe un petit peu dans le message que nous avons dit la semaine dernière sur l'ultra-légalisme. Vous savez, Dieu fait son affaire de tout ça. Alors, cette parole de Dieu pourrait s'appliquer au cas de Roboam. Dans le livre d'Ézéchiel, le prophète disait ceci à Israël au verset 16 et au chapitre 16 verset 30. Ça pourrait s'appliquer à Roboam, mais ça peut s'appliquer aussi à nos églises. « Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur, en faisant toutes ces choses. » La faiblesse de cœur. N'oublions pas que nous sommes faibles de cœur. Jésus le dira, hein. Oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors ne pensons pas que nous sommes comme Roboam à un moment donné en disant « Je suis fort ». Et à partir de ce moment-là, eh bien, d'en arriver à penser que nous pouvons nous passer de Dieu. Quand l'esprit vacille, le cœur n'est pas loin de suivre. Peut-être Roboam s'imaginait-il qu'en substituant l'airain à l'or, il se rassurait lui-même. Il se déculpabilisait sur ce qu'il devait faire et qu'il n'avait pas fait. Et vous savez ce qu'il devait faire? C'était une chose toute simple. C'était de se repentir. et c'était la seule chose qu'il ne voulait pas faire. Se repentir à court terme, ça marche peut-être, mais avec le temps, c'est toujours une opération qui nous trahit, qui nous désavoue et fait la preuve d'un état de recul et d'échec. Quand Dieu nous demande de nous repentir, c'est qu'il a, besoin de notre repentance pour ensuite nous redonner un nouvel élan. D'ailleurs, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament est bâti sur la repentance. À partir du moment où il y a cet acte qui nous ramène vers le Seigneur, eh bien, Dieu peut tout à nouveau faire les choses. Une vraie repentance. L'illusion est sanctionnée dans le livre de l'Apocalypse, je ne vais pas lire, c'est l'histoire de l'église de Sardes, au chapitre 3, versets 1 à 6, où Dieu dira à cette église, « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Regardez bien Roboam comme il rentre bien dans l'illusion de son jeu. Tout le monde en Juda semble y croire. Le verset 28 nous rapporte toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs, parlant des boucliers naturellement. Lorsque le niveau spirituel est en baisse, c'est un peu à l'image de ces coureurs qui portaient les boucliers du temple au palais royal, beaucoup de pas perdus. Ils couraient avec les boucliers, c'était la parade, voyez. Comme quelquefois au 14 juillet, nous on fait descendre un peu nos blindés et puis nos avions. Hein. Mais là, ils partaient d'un endroit à un autre et puis ils paradaient devant tout le monde et tout le monde s'extasiait en disant « Mais qu'est-ce qu'ils sont formidables ces boucliers !» Mais c'était des pas perdus. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'était du vent inutilement agité. C'est pour ça que Paul nous le rappelle, qu'il ne bat pas contre eux, hein, battant comme battant l'air. Et je crois que vaut mieux en faire moins, mais en qualité, plus qu'en quantité. Pour comparer la perte de vitesse spirituelle, et ça c'est un phénomène que l'on voit grandissant dans notre monde, c'est qu'on court dans tous les sens. Mais le monde se déplace, parce que c'est le siècle, et nous avons des moyens pour nous déplacer. Mais nous voyons que les chrétiens, ça y est, c'est pareil, ils tournent un peu dans tous les sens. Vous savez, on a peut-être quelquefois critiqué l'Église catholique parce qu'il y avait des sanctuaires à Rome, à Fatima, etc., etc., mais on n'est pas loin de faire aussi nos basiliques. Ah oui, ça sera peut-être pas sous les mêmes formes, mais ce sera la même chose. Ce sera pas en pierre, ce sera en doctrine. Et quelquefois même en fausse doctrine. On courra. Moi j'ai vu, hein, dans mon ministère, j'ai vu des gens qui se déplaçaient. Je dis pas pour ceux qui sont en vacances et qui sont venus nous rejoindre ce matin. Rassurez-vous, c'est pas pour vous que je parle. Mais quelquefois, des gens qui sont établis depuis des années et des années, mais qui sont là avec une soif, une démangeaison d'entendre toutes sortes de choses parce qu'ils ne se plaisent plus dans leur église. Il y a peut-être des raisons, c'est vrai. Parce que si on n'enseigne plus la parole, on ne tiendra pas les gens. Et si on raconte toujours des choses qui sont toujours un peu sur le même thème ou le même sens, les gens, non, l'église et le peuple de Dieu a besoin de nourriture substantielle, d'enseignement. Alors, si on leur donne pas, ben, ils auront cherché ailleurs, et les pasteurs pleureront. Et ce sera peut-être un peu leur faute. Parce qu'il faut creuser la parole de Dieu. Il faut enseigner, il faut aller au fond des textes, et donner une nourriture qui a de la consistance. Ça, c'est important. Alors, on court. J'aimerais terminer maintenant sur une application pratique, quelque chose de très simple. Qu'est-ce qui élève, ou qu'est-ce qui abaisse? Le niveau spirituel. J'aimerais prendre quatre exemples, et ce sera bref. Il y en a deux dans l'Ancien Testament et deux dans le Nouveau Testament pour illustrer un peu l'histoire des boucliers d'or changés en boucliers d'airain. En baisse. Vous savez, comme dans certains magazines, par exemple, en politique, hein. En baisse, en hausse, ou stationnaire. Alors, en baisse. Il y a un homme qui était en baisse, c'était Lot. Il était, nous pouvons dire, en perte de vitesse. Et pourtant, il avait un exemple formidable. Cet exemple, il s'appelait Abraham. C'était son oncle. Quand on ne veut pas, ou quand on ne peut pas, se maintenir sur la montagne, parce qu'il était monté sur les montagnes de Canaan, alors on descend tôt ou tard dans la vallée luxuriante de Sodome et Gomorre, d'une manière ou d'une autre, ce que nous pourrions appeler l'état du monde. Nous vivons dans le monde sans en prendre l'esprit. On est d'accord, hein. Je suis pas en train de prêcher le cloître et puis le monastère, hein. Non. Jésus nous dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et moi, j'ajoute, qui est dans le monde? Ça, c'est une nuance. Et nous devons remplir notre vie conjugale, notre vie sociale, notre vie familiale, et tout ce que Dieu nous donne à vivre pour être des témoins et des lumières dans ce monde. Autrement, si on en sort, on ne sera plus rien du tout. Donc, on est d'accord. Alors, Lot, il étouffait sur les montagnes. Pourtant, il fait toujours un peu plus frais. Surtout par les temps qui courent. Mais toujours est-il qu'il a descendu tout doucement. Il a commencé à regarder cette plaine luxuriante. Sodome et Gomorre, il s'est dit, mais c'est ce qu'il me faut, moi, pour mes troupeaux. C'est bien vert, il y a de l'eau, et puis il y a toutes sortes de choses dans ces villes. Alors, il a commencé à rêver et gamberger un petit peu d'enrichissement et de réussite, de prospérité. Et le facteur en baisse, c'est de vouloir vivre dans ou avec le monde, dans l'esprit qui est dans le monde, et de faire comme si. Et son choix, assurément, était un choix égo. Sa convoitise, parce que c'est ses yeux qui l'ont mené, ses compromissions coupables, l'illustration d'être un bon croyant alors qu'il n'était plus que l'ombre de ce qu'il devait être, tout simplement. Et son témoignage a été neutralisé, parce que quand il a prévenu ses gendres qu'il allait y avoir un jugement, ses gendres ont pensé qu'il plaisantait. Chapitre 19 du livre de la Genèse. Et là, il a été complètement discrédité, et il a fini par tout perdre. Parce qu'il était descendu avec ses richesses, mais finalement, quand il a quitté Sodome et Gomorre, il n'y avait plus rien du tout, tout avait brûlé. Je dis bien, en baisse. Vous voyez les boucliers d'or et les boucliers d'airain. Et à Lot, il lui restait rien du tout. En hausse maintenant. Un homme qui était en hausse spirituelle, il s'appelait Néhémie. C'était un homme de Dieu. Et pourtant, c'était un homme qui était sollicité par ses ennemis, qui se déguisaient en amis. Dixit, Tobija et Sambala, de descendre à parlementer dans la vallée d'Ono, chapitre 6 du livre de Néhémie, vous pourrez retrouver, pour discuter. Et je crois qu'il y a des choses qu'il vaut mieux éviter. Parce que si c'est pour discuter, on n'est pas appelé à discuter, on est appelé à vivre notre foi. Tout simplement, à porter le témoignage de la vie, à communiquer la vie. Et ça, il l'avait bien compris, Néhémie. Parce qu'il se disait, eh bien voilà, ses ennemis se disaient, pendant qu'il sera à discuter avec nous dans la vallée d'Ono, eh bien pendant ce temps-là, la muraille de Jérusalem ne se fera pas. Et que de temps perdu dans nos églises. Que de temps perdu dans la vie aussi des pasteurs, qui courent de droite et de gauche, parce que ça, c'est aussi la même règle. Et j'ai pas quelque chose contre mes collègues. C'est pas ça, mais on descend de plus en plus, me semble-t-il. Alors, cette vallée d'Ono est en quelque sorte l'image des mésalliances en tout genre. Séduisante proposition de faire ensemble quelque chose. Et ça donnait Babel dans l'histoire de la Genèse. Refus de Néhémie et dévoilement de ses adversaires qui tombent le masque à un moment donné. Parce que après avoir fait patte douce pour essayer de séduire Néhémie, ils vont devenir véritablement extrêmement redoutable. Et là, ils vont essayer de lui casser sa réputation d'une manière ou d'une autre, de le compromettre même. Résister, tenir ferme, et Dieu bénit l'intégrité de Néhémie. Et les travaux réussissent en peu de temps. Ça, c'est en hausse. En baisse. Je vous ai dit, il y en a quatre, hein, on est bientôt à la fin. Facteur de perte de vitesse. Ce sont les partis pris dans les églises. Vous savez ce que nous dit Paul ? Parti pris dans les églises. J'aime, j'aime pas. 1 Corinthiens chapitre 3. Laissez-moi vous rappeler simplement ce qui nous est donné. Paul dit ceci, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants, des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez toujours pas le supporter à présent, parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Mais qu'est-ce qu'Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Qu'est-ce que Céphas ? Une chose qui met une église en baisse, c'est quand il y a des préférences, du favoritisme et qu'il y a du parti pris. Enfin, vous avez de la chance, vous n'avez qu'un pasteur l'un après l'autre ici. Mais moi, j'ai travaillé dans des églises où il y avait plusieurs pasteurs. Eh bien, vous savez, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Quelquefois, j'ai eu des collègues qui m'ont dit « Oh, j'aimerais bien travailler en collège, travailler en équipe, en collège, comprenez ce que je veux dire. Oui, il y a des bons moments, il y a des beaux côtés, mais je veux vous dire que c'est pas facile. Et quand ça vient, pas forcément du pasteur, mais quand ça vient des chrétiens en disant « moi j'aime celui-ci, j'aime pas celui-là », entre nous, alors je peux vous dire que l'Église à ce moment-là, elle est en baisse, en chute libre. Parce que ça ne doit pas exister dans une Église. Toute la Bible et le Nouveau Testament nous demandent d'être unis et de nous aimer les uns les autres. Et combien de fois nous avons vu des églises péricliter, changer les boucliers d'or de la communion fraternelle en boucliers d'airain, et ça sonnait creux. Ce n'était plus qu'une apparence, mais ça sonnait creux. Parce que les mots, s'il n'y a pas le cœur, ça sonne creux. C'est pour ça qu'il est dit que votre charité soit sans hypocrisie. Rien de tel pour faire reculer l'Église de Jésus-Christ. C'est un état d'esprit mauvais, il faut le dire. Un état d'esprit mauvais qui traduit la baisse du niveau spirituel, de la vie spirituelle. Et l'on disait à Corinthe, « Moi, je suis !» Il y avait aussi dans cette église de Corinthe ce que nous pourrions appeler l'indigence morale, la jalousie et les disputes. C'est pas normal. Et puis, est souligné par Paul l'immaturité. Il parlera d'enfants. Il dit, mais vous êtes encore au lait, alors que vous devriez être depuis des années à la nourriture solide. Je crois qu'il faut que cela, si ça existe, ça s'arrête au milieu de nous. Nous voulons dire, Seigneur, que ta gloire revienne, mais elle ne reviendra que dans la mesure où l'Église sera unie. Et que nous ne serons pas à nous regarder en nous critiquant les uns les autres. Il y a des choses qui doivent être évacuées de l'Église. Et il ne faut pas parler en surface, il faut parler en profondeur. Il faut que le travail se fasse, non pas parce que je regarde mon voisin, mais parce que je me regarde moi-même. Et je dis, il faut contribuer à la paix, il faut contribuer à l'unité, il faut contribuer à l'équilibre de l'Église. Alors, à ce moment-là, la gloire de Dieu reviendra. Et il nous donnera tout à nouveau des boucliers d'or dans nos communautés. C'est ça ce que nous avons besoin. Je termine. Quatrième, en hausse. Il est terminé sur un point favorable, quand même, positif. Hein? En hausse. C'est dans Colossiens, chapitre 1er. Et je termine sur ce texte, simplement. Chapitre 1er, verset 9 à 11, hein, tout simplement. La moitié du verset 9. « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » C'est un texte qui nous parle d'ascension spirituelle, comme Paul sait le faire, aspirer aux choses d'en haut. Laissez-vous élever par les choses d'en haut. Donc, ascension spirituelle. Il nous est demandé d'être remplis et de marcher. Vous vous souvenez des coureurs qui couraient entre le temple et puis la maison du roi? Ils couraient en vain, hein, faisaient des courants d'air. Il ne nous est pas demandé de courir. Hein. Il nous est demandé de marcher et de marcher avec le Seigneur, comme Enoch par exemple. Il nous est demandé de porter. Il nous est demandé de croître. Il nous est demandé d'être fortifiés. Et ça va mettre en déroute toutes nos anémies morales et spirituelles dans le peuple de Dieu, dans l'Église. Ensuite, il est question de la joie, il est question de la persévérance, il est question de la patience. C'est-à-dire que ça, c'est de l'or, ce n'est pas de l'airain. Il est question que nous visions aussi la qualité sur un fondement solide. Puisque Paul nous en parle aussi, il nous dit ceci, si quelqu'un construit là-dessus avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, eh bien, ça sera solide. Mais s'il construit avec du chaume, avec du foin et puis avec de la paille, alors le résultat sera mis en évidence. Écoutez, veillons à garder le niveau spirituel élevé, c'est-à-dire veillons à rester au niveau de l'or. C'est une valeur, l'or, dans le monde. Une valeur refuge pour le témoignage de l'Évangile et pour que nous ayons une pleine approbation du Seigneur. Alors à ce moment-là, nous pourrons dire, Seigneur, que ta gloire revienne. Et la gloire de Dieu va revenir. Que Dieu nous bénisse ce matin. Souvenons-nous des boucliers d'or et gardons cette pensée au fond de notre cœur. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier quelques instants, s'il vous plaît. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'il n'y a pas d'histoire dans ta parole qui ne soit d'abord une histoire vraie. Une histoire vraie parce que ça fait partie, tout simplement, eh bien là, de vécu d'hommes, de femmes qui te connaissent ou qui te connaissaient. Mais nous croyons, Père éternel, que par-delà l'histoire, il y a là une grande leçon spirituelle, d'une grande élévation, Seigneur, morale et spirituelle. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous apprends encore une fois de plus que quand tu nous donnes des trésors, eh bien ces trésors, nous devons les conserver. Nous devons faire de mettre tout ce qui est en notre possession pour garder véritablement ce trésor. Oui, nous voulons te remercier parce que si nous considérons qu'il y a des choses dans le monde qui ont une certaine valeur, et que nous y veillons, Seigneur, alors à combien plus forte raison ? Dans les trésors du ciel, dans les trésors de l'Évangile, dans les trésors de ta parole, dans les trésors de la vie spirituelle, de la dimension spirituelle. Nous croyons, Père éternel, que nous sommes aussi un petit peu comme la colombe, qui a ses plumages, son plumage chargé d'or et d'argent. Alors donne-nous, Seigneur, de ne pas reposer dans les étables. Donne-nous, Seigneur, de ne pas descendre, Seigneur, à un niveau inférieur. Comme nous le voyons dans la généralité de notre monde, de notre christianisme, de nos églises, c'est vrai, Seigneur, nous sommes bien obligés de le voir, de le constater, et nous ne pouvons que le déplorer. Seigneur, dans le nom de Jésus, aide-nous, s'il te plaît, parce que nous ne sommes pas là à nous poser en redresseur de tort, ou en juge et condamnateur des autres. Mais une chose que nous voulons comprendre, c'est que nous avons besoin de prendre garde à nous-mêmes. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous aides. Alors, Seigneur, si véritablement il y a là des foyers qui s'allument tout à nouveau, mais des foyers, Seigneur, qui purifient l'or, alors nous croyons, Père éternel, qu'il va y avoir à ce moment-là eh bien, un retournement de situation. Partout il y a affaiblissement, partout il y a dégradation, partout il y a pollution. Eh bien, Seigneur, à ce moment-là, c'est l'inverse qui va se produire. Il y aura ce que nous pouvons appeler un souffle de l'esprit, un réveil. Non pas parce que nous aurons, en effet, paradé avec nos boucliers, mais parce que nous nous serons tenus dans la persévérance. Nous nous serons tenus, Seigneur, devant ta face. Que nous aurons étudié ta parole. Que nous serons restés, Seigneur, dans tes parvis. Et que nous aurons, en effet, Père éternel, mis en œuvre ce que tu nous auras confié, Seigneur. Alors nous voulons te remercier, nous voulons te dire, oui, que ta gloire revienne. Seigneur, que ta gloire revienne sur ton peuple, que ta gloire revienne sur nos vies, que ta gloire revienne, Seigneur, sur nos églises, que ta gloire revienne également sur notre pays qui a tant et tant besoin, Seigneur, d'avoir au moins une image du christianisme, de l'évangile, autre que celle qui lui a été présentée jusqu'à maintenant, et cela depuis des siècles. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole, et merci pour ton esprit.